Je n'ai pas l'habitude de parler en public comme Philippe. Je vais lire le texte qu'on a rédigé. Juste en deux mots pour nous présenter, me présenter. Donc, je suis ingénieure en télécommunication en informatique. J'ai longtemps travaillé dans les réseaux, donc j'ai un éclairage de ce qui se passe dans les tuyaux de l'intérieur du réseau, y compris aussi le côté grande base de données, puisque je travaille dans le domaine des grandes bases de données, des entrepôts de données, toutes ces accumulations de données qui font du scoring en ce moment et qui analysent en permanence tout ce que vous faites sur le net, en permanence, et je dis bien instantanément. Donc j'y reviendrai. Je suis par ailleurs diplômée en sociologie et je suis venue dans ce groupe et dans cette réflexion à travers une réflexion que nous avons faite dans le cadre des sociétés cognitives, c'est-à-dire dans les cadres des sociétés de travail et de production immatérielle sur les réflexions qui sont autour des risques psychosociaux et notamment l'émergence des stress avec ce qu'on a vu chez France Télécom, les suicides, etc. Donc c'est un sujet sur lequel je travaille également. Donc on va parler en fait des révolutions et de l'émergence des révolutions en Afrique du Nord, en Tunisie encore par commencer. Donc toutes ces révolutions que vous avez vues depuis plusieurs mois, aussi bien autour de la Méditerranée, au Moyen-Orient et même en Angleterre, hein, il y a quelques mois, des grandes manifestations comme on n'a pas vu depuis très longtemps, mettent en lumière des phénomènes nouveaux. Ces mouvements, ces luttes sont ici considérés comme la production du commun. Et ce commun, on l'a analysé, on l'a vu, repose en grande partie sur l'utilisation des outils du net et des outils autorisés depuis quelque temps de la téléphonie mobile et des extensions de la téléphonie mobile. Et donc c'est dans ces lieux et grâce à ces outils qu'à notre sens se joue aujourd'hui la bataille en cours entre les gouvernances financiarisées et la production immatérielle et les multitudes connectées, ces nouvelles multitudes qui se connectent de manière informelle et spontanée. Donc cette bataille, dont l'issue est en équilibre très fragile, est constituée d'une part des menaces de la captation du contrôle que peuvent exercer aussi bien les gouvernements, les États, que les entreprises privées officielles ou mafieuses, et d'autre part les opportunités innombrables d'en utiliser les ressources, la puissance, à des fins justement révolutionnaires et à des fins de développement. L'évolution quasi exponentielle de ces outils depuis une dizaine d'années et en plus depuis encore 3-4 ans, tant par leur fonction que par leur pénétration au sein des populations, même les plus pauvres, parce qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, le plus pauvre a un téléphone mobile. Même s'il est basique, il a un téléphone mobile. Fait qu'aujourd'hui, ce sont devenus des vecteurs de croissance. Alors, ce sont devenus des vecteurs de croissance et faites confiance aux banques, faites confiance aux opérateurs pour savoir les exploiter, mais en même temps, ce sont des vecteurs de croissance pour eux-mêmes et pour communiquer. Donc, ce qu'on souhaite vous faire voir aujourd'hui, c'est qu'avec cette contribution, on voudrait vous apporter notre contribution d'informaticien sur ces phénomènes et vous en montrer à la fois les opportunités, mais aussi les menaces. Donc on va essayer de ne pas être trop technique, mais bon, il faut nous pardonner, hein, c'est notre métier. Et on va commencer par parler des activistes. Donc les activistes avec un H, donc qui vient de hacker, hein, comme tout le monde le sait. Et en fait, comment les hackers sont nés? C'est qu'en fait, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est que on voit que la technocratie qui était sous couvert d'un certain nombre de technocrates qui gardaient bien leur sein la technologie, etc., est en train, grâce à une certaine démocratisation à la fois de la formation, de l'enseignement, etc., de se diffuser. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de garder une classe de technocrates bien fermée sur eux-mêmes. Et donc c'est dans l'informatique, et justement parce que l'informatique devient des matières de plus populaires. Aujourd'hui, j'étais à Villetaneuse, enseignement Paris-Nord, donc Paris 13, donc Épinay-Villetaneuse, où de plus en plus des jeunes de milieux défavorisés, etc., accèdent à des formations informatiques de niveau Master 2, alors qu'il y a quelques années, c'était réservé aux écoles d'ingénieurs. Donc ça se démocratise, les enseignements sont de qualité partout, et de ce fait, c'est un potentiel nouveau de démocratisation grâce à ces métiers-là. J'irais même, pour le côté féminin, que dans les pays maghrébins, on a beaucoup plus de filles dans ces matières-là que de, enfin, proportionnellement aux pays européens. Donc c'est un moyen de démocratiser, de sortir de son milieu. Donc cette maîtrise technologique, elle est venue par cette démocratisation, mais elle est venue aussi des hackers. Donc de ces hackers, bon, il y a plein d'émissions sur le sujet en ce moment, c'est à la mode, mais c'est partant d'eux que se diffusent un certain nombre de pratiques, donc les pratiques qu'on appelle activistes avec un H, et ou médiactivistes de l'Internet. Ce qui est nouveau et qui semble extraordinaire, c'est que c'est devenu quasi simultané. C'est une explosion à laquelle on a assisté depuis quelques mois, hein, depuis la mi-2010, hein, et que aussi bien dans le monde industrialisé que dans le monde des pays émergents. Donc c'est pas propre aux pays industrialisés, c'est pas propre aux pays émergents. On a l'exemple tunisien. Donc les médias et même les témoignages, on a fait témoigner des collègues tunisiens de notre compagnie, de notre société, qui ont vécu sur place les événements tunisiens, donc dans un séminaire qui est parallèle à celui-là, nous ont fait prendre conscience que la révolution populaire naît d'un mouvement sans leader et sans avant-garde organisée, c'est important, n'aurait pas pu voir le jour sans l'existence de cette génération de activistes. Ce sont des gens qui ont pris l'habitude, à partir du moment où depuis des années ils vivent sous des dictatures, depuis des années, ils vivent sous des contraintes. Ils ont su, un gamin de 11 ans en Tunisie sait contourner les interdits du net. Il sait trouver les bonnes portes, entre guillemets, pour accéder malgré tout, même quand le gouvernement interdit. Alors, évidemment, quand ils coupent complètement le réseau, on ne peut pas le faire. Mais jusque-là, ils ont les moyens. Et donc, ils se sont organisés en contre-pouvoir depuis des années. Et là, grâce, enfin, malgré, c'est malheureux à dire, la mort de ce jeune... chômeur, donc à Sidi Bouzid, il y a eu cette explosion qui a permis d'utiliser à fond, hein, tous ces outils, parce qu'on avait d'une part une population jeune, une population formée, une population diplômée, voire surdiplômée dans certains cas, qui maîtrisait les outils. Il y avait une démocratisation de ces outils, et ce qui a permis que ces mouvements se cristallisent à ce moment-là. Par contre, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gouvernements, ils les connaissent aussi, ces outils, hein, les policiers, les services extérieurs, la DCRI, la GSE, les équivalents dans ces différents pays connaissent parfaitement. D'ailleurs, au demeurant, ce sont les mêmes intervenants qu'on voit dans les séminaires de hackers et qu'on voit dans les séminaires de sécurité. Hein. Ce sont les mêmes. Et là, je peux vous en témoigner. Hein, certains gendarmes qui sont au niveau le plus haut participent à des réunions de hackers. Donc, dans ces pays industrialisés, les activistes se sont déjà, depuis un certain nombre d'années, battus notamment contre le DRM, le copyright sur les disques, vous vous rappelez, cette méthode qui essayait d'interdire la copie de disques et de musique, de CD, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu automatiquement, immédiatement, des hackers et des développeurs, des spécialistes qui se sont mis ensemble de manière informelle pour contrer les systèmes qui les ont cassés. Et pour ce que je peux vous dire d'Adopi, c'est en train de se passer contre Adopi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de développeurs qui vont faire en sorte de faire tomber Adopi parce que c'est une espèce d'émulation en même temps. Il y a une forme d'émulation dans ce métier-là, dans ce milieu-là. Donc il y a ce côté jeu aussi. Et donc dans les deux situations aujourd'hui, on est dans une situation où c'est une forme de freeware, c'est-à-dire il y a une forme d'émulation aussi et de concours et de est-ce que je fais pas mieux que le voisin. Et puis en même temps, alors je voudrais effectivement dire, il y a les développeurs dans ces logiciels-là, mais il y a aussi ceux qui contribuent en voyant les défaillances du développeur, c'est-à-dire en testant le produit et en lui disant, attends, là t'as fait un bug, on corrige. Et donc il y a l'émulation qui se fait par la correction et par la détection d'erreurs et de tests. Donc ça c'est important aussi, c'est de dire, il n'y a pas que le développeur, mais il y a tous les autres qui contribuent à l'amélioration du produit. Et donc tout cela devient un lieu d'expression du contre-pouvoir, mais encore une fois, il est perpétuellement surveillé par les pouvoirs, aussi bien étatiques que policiers, que les entreprises, que le capital, que les opérateurs réseau eux-mêmes. Aujourd'hui, si vous écrivez un mail par Gmail, immédiatement, je dis bien immédiatement, avec les logiciels d'analyse et de text mining, ce qu'on appelle la fouille de texte, on sait quel est le contenu. Il n'y a aucune sécurité chez Google, pas de protection de données personnelles. On sait immédiatement, et je peux vous en témoigner, j'ai fait le test là encore hier soir, immédiatement, on va vous proposer dans la fenêtre à côté des liens sur des mots-clés que vous avez mis dans votre mail. C'est immédiat. D'accord ? Donc, c'est important de savoir que vous êtes en permanence visualisé, espionné, etc. Mais ce lien, ce lieu, ce net, ces outils deviennent, et on le voit bien, ça devient un primo-terrain de toutes ces guerres, à la fois entre des jeunes qui essaient de s'organiser de manière plus ou moins formelle, et en même temps, une bataille contre des pouvoirs, qu'ils soient des pouvoirs étatiques ou des pouvoirs capitalistes, voire des pouvoirs mafieux. Donc ça devient un primo-terrain. Et ce qu'on a vu en Afrique du Nord et en Tunisie, c'est qu'il y a eu un déplacement de ce primo-terrain qui était le primo-terrain du net vers le terrain de la cité, vers le terrain de la vraie vie, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on a à la fois protection, intrusion, captation ou destruction. Donc, ce qui importe aujourd'hui pour justement qu'il y ait possibilité de démocratisation et possibilité de récupération et de récupérer ce pouvoir, c'est de pouvoir maîtriser et perfectionner les outils à la fois pour se protéger et pour garder son anonymat. Donc c'est un des points les plus importants. Donc pour garder son anonymat, c'est aussi pour toutes ces singularités, pour tous ces individus qui contribuent à tous ces mouvements, le problème premier, c'est de protéger déjà leurs données personnelles, qui je suis pas, je suis un alias, je ne suis pas un alias, et de protéger aussi leurs biens, ne pas se faire voler son code de carte bancaire, ne pas se faire usurper son identité, etc. Donc tout ça contre qui ? Contre à la fois, encore une fois, les Google, les Facebook, les Microsoft, et puis toutes les entreprises qui espionnent en permanence tout ce que vous faites, et d'autre part, les pouvoirs étatiques. Soit dit en passant, les opérateurs ont des milliers de fois plus d'informations sur vous que les États eux-mêmes. Et ils se les échangent, ils se les revendent en permanence. Donc c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler récemment du scandale, entre guillemets, parce que c'est un secret de polichinelle, de savoir que Google et Apple espionnent votre géolocalisation quand vous êtes connecté avec votre GPS. Ils savent pertinemment où vous êtes et ils font, puisque vous autorisez le lien entre votre position et l'application que vous les chargez, par exemple la météo du coin où vous êtes, tout cela est tracé aussi bien chez Google que chez Apple. Donc c'est pas un hasard si, par ailleurs, on voit aujourd'hui que dans les labos de recherche et de développement, aussi bien privés que publics, on a une profusion de thèses sur la fouille et l'analyse de réseaux de graphes sociaux. Et par ailleurs aussi sur tout ce qui est ce qu'on appelle la fouille d'opinion instantanée. En temps réel, on sait effectivement savoir ce que vous pensez, ce qu'une population pense. Donc, un point important, l'anonymat, comment on se protège, comment on peut se protéger. Et donc, on a vu, et à ce propos-là, le fameux Anonymous. Donc, Anonymous, c'était quoi au départ ? C'était une mouvance de geeks, ce qu'on appelle les geeks, des digital natives, des activistes, etc., qui ne se connaissaient pas forcément. Et en fait, on désigne donc des activités de communautés qui sont constituées de manière informelle et qui, à un moment donné, se réunissent, alors en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant le mail, etc., les Facebook et autres Twitter, pour engager une action. Et donc l'action qu'ils ont engagée est la plus visible, ça a été effectivement l'action Payback, Avenge, Assange. Donc quand Assange a, disons, visualisé, enfin, disons, libéré sur Wikileaks en fin 2010 un certain nombre d'informations, il y a eu immédiatement un phénomène de vengeance, entre guillemets, hein, qui a été organisé de manière informelle, diffuse, etc., par le réseau Anonymous. Donc, ils ont utilisé une technologie, je rentrerai pas dans le détail, qui s'appelle la Distributed Denial of Service. En gros, ça consiste à ce que tout le monde se connecte au même moment sur un serveur, et ça fait tomber le serveur. En utilisant des logiciels qui sont plus ou moins cachés dans l'ordinateur. Alors, il y a deux manières de le faire. Une manière de le faire volontairement. Je suis effectivement volontaire en appuyant sur le bouton. Mais attention, les policiers et les mafieux savent faire la même chose. Ils peuvent vous cacher sur votre PC ou sur votre téléphone mobile des spyware ou des logiciels zombies qui, eux, seront décrochés via des actions mafieuses. D'accord ? Ce qui s'est passé notamment en Estonie, il y a en 2005 ou en 2007, qui a écroulé l'économie. Donc, voilà, donc la provocation de Wikileaks, on a montré quoi ? On a montré l'émergence d'un nouveau paradigme de la possession et de la diffusion d'informations en dehors du réseau, en utilisant le réseau. Qui possède l'information et comment on peut la diffuser ? Comment on peut la diffuser vite ? Donc ça a été quand même analysé par le monde d'une manière générale comme une cyberguerre, à modèle réduit. Donc ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y a eu des attaques, des contre-attaques, on a empêché Wikileaks d'utiliser ses comptes bancaires, etc. Donc toute cette cyberguerre avec attaques, contre-riposte, riposte, etc. Il faut savoir aussi que les gouvernements ont utilisé des méthodes parfaitement illégales pour contrer Wikileaks. Le fait, sans jugement, de bloquer les comptes de quelqu'un, c'est parfaitement illicite. Et aujourd'hui, survient dans le monde justement de la sécurité informatique le concept de légitime défense. Est-ce qu'on peut appliquer au net, au réseau, le concept de légitime défense ? Et il y a eu un séminaire la semaine dernière sur le sujet à Paris, et j'ai discuté donc avec un des intervenants que je connais bien, et qui m'a dit, il est de l'avis de tout le monde, dans le cas de Wikileaks et des contre-attaques et des contre-ripostes qui ont été faites contre Wikileaks, les gouvernements et puis les entreprises privées qui ont contré Anonymous, etc., ont largement dépassé ce qu'on peut appeler aujourd'hui comme étant le concept de légitime défense. Donc, ils sont bien dans le domaine de l'illégitimité totale. Voilà.